dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream.
Now what's my definition?
A dream.
My definition.
A dream.
My definition. My definition is this, my definition.
A dream.
My definition. My definition.
A dream.
My definition is this.
I have a dream.
Et bonjour escapadiens, escapadiennes, restant dans le thème de la glace, je vous reçois sur les ondes du 102.0, le 103.3 et le 104.1. Voilà, vous pouvez aussi retrouver nos émissions sur le www.radioescapades.org. Voilà, alors, nous allons aborder ce thème de la glace sous toutes ses formes. Il en est une qui nous surprend souvent, en n'importe quelle saison. Mais d'autant plus l'été, quand il fait bien chaud, c'est surprenant. Abordons donc, vous l'avez compris, la salière de notre créateur. Et c'est peu dire, car la note est très salée quand elle arrive. Et surtout quand elle saupoudre nos régions. C'est bien entendu la grêle, elle nous coûte cher. Surtout aux pauvres viticoles. À cela, je m'accorde un échange personnel avec le phénomène. Ce fut dans les années 80, dans la ville de Saint-Flour, dans le Cantal. Et je peux vous dire que c'était très surprenant. Un départ nîmois, sous la cagne, n'est-ce pas ? On passe évidemment la corniche des Cévennes, on passe Mende, toujours avec un soleil de plomb, et d'un coup au loin, une fois qu'on a passé Garabi et Saint-Chély-d'Apché, nous pouvions voir un nuage énorme, ovale, tel un film de fiction comme, vous savez, les grands ovnis au-dessus d'une ville. Pareil, au-dessus de Saint-Flour. Quelque chose de très surprenant. Et je peux vous assurer que d'arriver sous ce nuage et de voir les gens avec des pelles ramassées, des tonnes, je peux le dire, je n'exagère pas, je ne suis pas marseillaise, devant leur portail de partout, Saint-Flour était blanc de grêlons. Et ce fut une expérience vécue et c'est très très surprenant. Voilà, alors je continue avec juste une petite poésie de Monsieur Auguste Angelier. Les légers grêlons de la grêle bondissent sur le bord des toits. Leur chute claire s'amoncelle au pied des murs, en tas étroits, parfois se heurtant aux parois. Un grain rejaillit et sautèle sur les pavés mouillés et froids, comme une blanche sauterelle. Le sol un instant étincelle, argenté de ce fin gravois. Les légers grêlons de la grêle bondissent sur le bord des toits. Voici exactement l'image que j'ai eue de Saint-Flour en plein mois d'août. Alors la grêle, comment se forment les grêlons géants en été? Ce phénomène météorologique impressionnant suscite étonnamment et inquiète, surtout les tempêtes estivales. Chaque été, la grêle défraie la chronique avec la formation de grêlons géants. Ce qu'il faut retenir, c'est que les grêlons géants se forment l'été dans le puissant orage lorsque les courants d'air ascendants, l'humidité et la chaleur se conjuguent. Ces conditions font croître les grêlons en altitude, parfois jusqu'à 10 cm de diamètre avant leur chute violente. Alors, comment on les distingue? Cette grêle est une forme de précipitation solide composée de morceaux de glace, appelés grêlons, dont le diamètre peut varier entre 2 et 10 en moyenne. Et ne pas confondre avec la neige ou le grésil. La neige se forme évidemment avec la cristallisation de la vapeur d'eau sous forme de flocons légers, alors que le grésil est constitué d'une petite bille de glace moins compacte issue d'un gel de gouttelettes de pluie gelée. Alors que la grêle, elle demande des conditions extrêmes pour que les grêlons grossissent et deviennent massifs. Pour bien comprendre sa formation, il faut plonger au cœur des cellules orageuses dites du cumulonimbus. Ces immenses nuages en enclume, pouvant atteindre 18 km d'altitude en France, offrent un terrain idéal pour la grêle. Température et humidité de surface très sévères, masse d'air instable, courant ascendant violent. Je vous décrirai ces trois notions. En attendant, nous faisons une petite pause musicale en compagnie d'Angélique Kidjo. Hey, calm.
My body now, echo me now, fire killer, pretty like Sabina. Are you coming back or what?
Are you coming?
Are you coming back or what?
Baba, now you go daddy hold a hand. I go tell you matter, hope you understand. Cause I give it to you like you never had. When we link up, it's a mad vibe. I'm a lover at the same time. I'm a fighter.
Now we want you to know. But for every job me to know. I'm mad at what I'm talking about. Don't want you to know where I'm at. When we link up, it's a mad vibe. I'm a lover. I'm a fighter.
Because my body now, echo me now, fire killer, pretty like Sabina. Are you coming back or what? Are you coming back or what? My body now, echo me now, fire killer. Pretty like Sabina, are you coming back or what? Are you coming back or what?
I give you lobby, lobby, low. Sure you no notice that I miss ya. Miss ya, baby boom, a shakisa. A chica, we don't chop karashika.
Now we want you to know. But for every job you know. No matter no word of the coach, you don't want you to know where you're mad.
My body now, echo me now, fire killer, pretty like Sabina. Are you coming back or what? Are you coming back or what?
Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, Ayekan. Voilà, vous êtes toujours en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire et qui vous parle de notre petite grêle qui parfois dans les régions ravage plein de régions. Alors, elle se forme par des températures et des humidités de surface très élevées. En été, elle alimente la montée d'air chaud et humide. Ensuite, par la masse d'air instable, des différences de température marquées entre le sol et la haute atmosphère, créent une puissante dynamique verticale. et vous avez le courant ascendant violent, véritable ascenseur, qui propulse les gouttelettes d'eau vers les couches froides. Au sein d'un nuage, une goutte d'eau gelée sur une particule ou un microcristal, un grêlon né, ballotté par les courants ascendants. Mais en décryptant les strates invisibles de la glace, des chercheurs ont mis au jour des trajectoires insoupçonnées au cœur des orages. Leur analyse dévoile que la genèse de la grêle obéit à des schémas bien moins turbulents que prévu. Depuis la hauteur des glaces des cumulonimbus jusqu'au sol qu'ils martèlent, les grêlons fascinent autant. Leur apparition brutale, leur taille parfois conséquente et ravage qui influe et nourrit longtemps les intérêts des scientifiques. Sous les orages, un mystère vieux de plusieurs décennies. Chaque année, ces orages provoquent des milliards d'euros de dégâts, ça nous le savons. Depuis les années 60, la théorie dominante reposait sur l'idée d'un recyclage vertical. Les embryons de glace portés par ces courants ascendants monteraient et redescendraient plusieurs fois, accumulant ainsi des couches alternées d'eau gelée, transparente et opaque selon le degré de congélation rencontré en chemin. Mais cette représentation classique ne repose que sur des observations indirectes, souvent biaisées par l'impossibilité de suivre le grêlon dans son ascension. Les ballons-sondes et les radars fournissaient des indices sur l'environnement général d'une tempête, sans offrir de vue intime sur la trajectoire exacte de chaque particule gelée. Le cœur du grêlon, lui, reste muet. Il ne nous indique rien. Il est secret. Ce que la science révèle enfin sur la formation des grêlons, pour leur étude, une équipe comme M. Qingyong Zhang à l'Université de Pékin a misé sur la chimie. Leur stratégie consistait à analyser les isotopes stables d'hydrogène et d'oxygène enfermés dans chaque couche de glace. Ces empreintes chimiques, marquées par la température et l'humidité ambiante au moment de la formation, ont permis de reconstruire la trajectoire verticale de chaque grêlon. Ainsi, nous pouvons enfin avoir l'histoire du grêlon, un peu comme la reconstitution de l'histoire d'un tronc d'arbre à partir de ses cernes. Les chercheurs ont étudié 27 spécimens issus de 9 tempêtes différentes en Chine. Leurs résultats publiés dans la revue Advanced Atmospheric Science ont fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde météorologique, et c'est peu dire. Contrairement à la théorie dominante selon laquelle le grêlon pousse en faisant des allers-retours verticaux à plusieurs reprises à travers les nuages d'orage, créant des couches alternées caractéristiques de la glace claire et opaque, l'étude révèle finalement que la plupart des grêlons suivent des trajectoires beaucoup plus simples. Un seul, sur les 27 spécimens, a montré des preuves de ces allers-retours verticaux. Sinon, la majorité a grossi soit en descendant régulièrement, pour 10 d'entre eux, soit après une seule poussée vers le haut, pour 13 autres. Enfin, 3 ont montré un mouvement principalement horizontal. Cette diversité de parcours a révélé en réalité, plus nuancée que prévu, que l'étude a aussi mis en évidence une plage de température de formation bien plus large qu'attendue, contrairement à la croyance qui fixait la croissance des grêlons entre moins 10 et moins 30. Certains embryons sont apparus entre moins 8, moins 7 et entre moins 33. Donc, ces écarts suggèrent des conditions de fabrication plus variées, incluant des particules biologiques ou minérales selon les cas. Un progrès pour la prévision du coup des orages violents. Ce changement de paradigme ne restera pas confiné au laboratoire. Comprendre précisément la formation des grêlons permet mieux d'anticiper leur taille et leur probabilité d'apparition, ce qui influence directement la qualité des alertes météorologiques. En effet, les plus gros grêlons exigent un séjour prolongé dans la zone optimale du super refroidissement. Pour qu'un grêlon dépasse les 25 mm, il doit bénéficier d'un courant ascendant assez puissant pour le maintenir en suspension et l'alimenter en couches successives de glace. C'est pourquoi les tempêtes les plus destructives sont aussi celles dotées des plus forts courants. Ce qui est un peu logique. les implications concrètes sont multiples. Mieux modéliser la structure interne des orages violents, affiner les prédictions d'impact au sol ou encore ajuster les stratégies de modification climatique comme l'ensemencement des nuages. En parallèle, les données collectées en Chine ont été recoupées avec celles de partenaires américains, soulignant l'importance des collaborations internationales dans la surveillance des extrêmes climatiques. Suite à cela, nous allons à nouveau faire une petite pause musicale, je crois avec Monsieur Bruno Mars qui nous dit « Adjust my ». C'est vivifiant. J'ai toujours l'impression avec Bruno Mars de revivre les années 70, revisitées à l'an 2000. C'est magnifique. Voilà, nous sommes toujours en compagnie de Pascal dans le royaume de l'intermédiaire et nous parlons de ces petits grêlons qui nous font parfois des grandes surprises et des mauvaises surprises pour ceux évidemment qui cultivent. Alors évidemment, il est très important de pouvoir surveiller l'arrivée de ces grêlons. Alors les instituts ont commencé à vouloir programmer à l'aide de ballons pour pouvoir prévenir les agriculteurs et aussi faire un système de ce qu'ils appellent la mitigation. Alors qu'est-ce que la mitigation, hein, n'est-ce pas ? Alors ça supposerait de pouvoir modifier le climat très en altitude et avant que l'orage ne soit au-dessus du site à protéger. Il existe bien moins de moyens de se protéger de la grêle que du gel tardif. Le seul dispositif actuellement efficace étant le filet anti-grêle, également utile contre les insectes, oiseaux, mais qui présente néanmoins un coût très significatif. L'idée de modifier le climat local est ancienne. Au Moyen-Âge en Europe, on faisait sonner les cloches des églises pour éviter la grêle et les dommages causés aux cultures. Après l'invention du canon, on tirait des coups de canon vers les nuages. Cette méthode a sa version moderne avec les canons à grêle modernes. Au début du XXe siècle, certains ont pensé que les électrocapteurs utilisés en électroculture, en modifiant les paramètres électriques de l'atmosphère, pourraient être améliorés et disposés autour de cultures à risque pour avoir une fonction paragrêle. Testé en France en 1911 par la Société d'études scientifiques de l'Anjou, subventionné par la même année par le ministère de l'Agriculture. Après la Seconde Guerre mondiale, on teste l'ensemencement des nuages pour tenter de réduire les dégâts causés par la grêle, notamment aux États-Unis et dans l'ex-URSS. En augmentant de nombreux noyaux de congélation, on espère augmenter le nombre de grêlons aux dépens de leur taille. L'iodure d'argent est le plus souvent utilisé pour cela, mais les météorologues sont très partagés sur cette efficacité. Dans les années 70, des chercheurs russes ont dit avoir mis au point en Union soviétique une méthode d'ensemencement rigoureuse, précise et efficace, impliquant une détection radar de la zone gréligène au sein de l'orage, suivie d'un tir d'obus d'artillerie ou de roquettes, ensemençant les nuages par de l'iodure d'argent à 3000 ou 8000 mètres. Il annonce pouvoir ainsi réduire jusqu'à 70% de dommages des cultures. Des expériences ont été faites dans quelques pays, comme une quinzaine de pays entre 1965 et 2005, avec des résultats plutôt mitigés et je dirais quasi nuls pour certains. Voilà, alors cette méthode pose aussi des questions évidemment sur la toxicité de l'argent retombant avec la pluie ou dans des grêles plus petits. Selon l'ANEFA, Association française, les taux d'iodure d'argent à 100 mètres du générateur ou dans l'air d'un réseau de générateurs seraient respectivement de 10 à 3 mg, donc ce qui modélise la diffusion du panache. Ça veut dire qu'en chiffres, les conséquences sont petites, mais cependant sur l'agriculture, elles peuvent être plutôt nocives. Une autre méthode consiste à diffuser en altitude au sein des cellules orageuses et dans les zones génération de grêle, le sel hygroscopique. C'est du chlorure de calcium et d'aluminium, ce qui donne à peu près le même résultat et pour toujours la même préoccupation des cultures. L'efficacité du canon anti-grêle supposait avoir un effet désintégrateur des grêles par onde de choc au sein d'un nuage d'orage est controversée et n'a pas été démontrée pour autant. Certains vergers utilisent des filets, ce qui reste encore la vieille méthode. La lutte passive se résume au choix des sites de plantation ou la mise en place de haies de protection. S'ils ne constituent pas à eux seuls des moyens de protection suffisants pour faire face aux épisodes de gel intense, ils représentent cependant des moyens de protection complémentaires à la lutte active qui convient à ne pas négliger. Cependant, nous avons eu des cas extrêmes. Alors là, nous allons avoir quelques petites anecdotes. Par exemple, aux États-Unis, le grêlon détenant le record le plus grand diamètre est celui de 20 cm, la taille quasiment d'un melon. n'est-ce pas? Et celui de pub pesant de 879 grammes est tombé à Vivian au Dakota du Sud le 23 juillet 2010. Cependant, celui-ci ayant de plus grandes circonférences est tombé à Aurora, à Nebraska, le 22 juin 2003. Celui-ci était de 47 cm et soit de 0,3 cm de plus que celui de Vivian. Énorme. Le record mondial de plus lourd grêlon est de 1,02 kg. Il est tombé à Gopalganj, au Bangladesh, le 14 avril 1986. 92 personnes furent tuées durant l'orage. Vous vous rendez compte, suite à cette chute de grêlon. Puis, nous avons encore quelques autres petites anecdotes. Nous avons donc, en août 1958, un orage qui a dévasté la région de Strasbourg et le grêlon atteint les 972 grammes, hein, n'est-ce pas? Ce qui est énorme. Et puis, le 25 mai 2009, dans la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, en France, les plus gros grêlons atteignent 12 cm de diamètre lors d'un épisode d'orage supercellulaire. Et je ne vous parle pas en aviation, dans de cas rares, de gros grêlons ont sérieusement endommagé des aéronefs traversant une zone orageuse. C'est pourquoi les avions devraient éviter les orages, même avec un radar de bord. En effet, les grêlons sont très réflectifs. S'ils sont vus directement par le faisceau du radar, mais ils se retrouvent derrière une zone de forte pluie, le signal revenant des grêlons sera atténué par cette dernière. Il pourra sembler alors au pilote qu'il se dirige vers une zone de pluie faible ou même un dégagement une fois passée la pluie forte. Donc la grêle, elle est très traître. Voilà pour les petites histoires de grêlons. Nous allons terminer avec une petite poésie qui est plus jolie peut-être et qui est plus, on va dire, fantastique que celle d'Augustin Gellier et qui a été écrite par un poète qui se fait appeler Pierrot de la Lune. Il a 59 ans, il est de Brest, mais il a souvent créé des petites images, des gifs animés, des pseudos et il se régale aussi de composer quelques poésies et dont une qui s'appelle évidemment La Grêle. Pourquoi cette averse de blanc grêlon? Est-ce les perles d'un collier d'une reine? Ou les larmes d'une bergère en haillons, gardant ses moutons et pleurant sa peine? Elle est sur un nuage au manteau de laine. A-t-elle eu si peur de ce gros cumulus noirci, tel un vilain prince noir en croque-mitaine? Jolie bergère, ne pleure plus, le ciel bleu est dans tes yeux, il jettera cet être vil et farfelu au brasier de ton cœur preux. Jolie bergère, cesse tes larmes, en perles acérées, blesse la rose que la nature a dotée du charme de rougir émue à l'encre d'une prose. N'est-ce pas si joli? Nous félicitons donc Pierre de la Lune qui nous écrit de magnifiques poèmes, dont celui de la grêle. Nous allons nous quitter sur le morceau de Charlotte Cardin, Tant pis pour elle. À très bientôt.
Fini ce bordel, hésitation à terme, c'est moi que tu aimes, t'as donc plus besoin d'elle. C'est la fin des querelles, des pluies torrentielles. Elle, elle pleuvait sur toi, moi je te donne des ailes. Tu me donnes des ailes, et on s'échappe du système. Que je la vide de tes veines, jusqu'à ce que plus rien ne l'appelle. Regarde mes lèvres, qui invitent les tiennes. C'est notre lune de miel, et tant pis pour elle. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes, c'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel. Dans le bleu de tes yeux, et toi le dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes, c'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel. Dans le bleu de tes yeux, et toi le dieu de mon ciel. Ooh, 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 ooh essentiel. Moi le bleu de tes yeux et toi le Dieu de mon ciel. Quelle belle nouvelle, quelle belle nouvelle. Que celle que tu aimes n'était qu'une étincelle. Qu'elle brûle avec elle, retour à l'essentiel. Moi le bleu de tes yeux et